BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission l'association de la semaine. Et aujourd'hui, je reçois l'association Un ailleurs pour tous et sa trésorière Jeanne Alonbrenner. Jeanne Alonbrenner, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par présenter l'association. Depuis quand existe-t-elle ?
L'association existe depuis 2 ans, mais nous aidons les familles qui sont hébergées au Formule 1 d'Épône depuis déjà 5 ans. On s'est pas tout de suite constitué en association parce qu'on voulait rester un peu libre de nos mouvements. Et puis bon, la réalité nous a rattrapés et on a monté l'association il y a 2 ans.
Alors qu'est-ce que ça vous apporte justement d'avoir créé, d'avoir officialisé finalement votre groupe en association ?
Alors on l'a officialisé d'abord parce qu'on voulait avoir l'habilitation pour l'aide alimentaire, parce qu'on peut pas faire les choses n'importe comment, et la Biocoop qui est juste en face de l'hôtel nous proposait de nous donner les invendus plusieurs fois par semaine, et donc on a dû faire une demande auprès du département, de la préfecture. Et pour ça, il fallait être une association. Donc, c'est la première chose qui nous a poussé à monter une association. Et ensuite, c'est aussi pour des questions financières, parce que certaines personnes commençaient à vouloir nous faire des dons. Et il fallait qu'on ait un compte en banque.
Alors, avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on ? Quelle est votre, finalement, en quelques mots, quelle est votre mission ?
Alors, nous aidons toutes les personnes qui sont logées par le 115, donc le SAMU social au Formule 1 d'Épône. Ce sont quasiment uniquement des familles en situation d'exil, mais il y a aussi quelques familles françaises en situation de précarité, mais c'est pas la majorité du tout. Et en termes de situation administrative, c'est très varié. Il y a des personnes qui sont en demande d'asile, d'autres qui ont le statut de réfugié ou qui ont un titre de séjour, aussi des personnes qui sont en situation irrégulière. Voilà, on a tout type de situation.
Et donc, votre champ d'action géographique, ce sont les personnes qui sont accueillies dans l'hôtel Formule 1 d'Épône.
Voilà, même si parfois nous sommes contactés par des assistantes sociales ou des personnes qui nous signalent des situations difficiles autour d'Épône, et on les aide aussi, bien entendu.
Alors, avant de parler de vos actions, vous faites partie du réseau AMI, c'est ça ?
Exactement.
Donc, dites-nous un peu ce que c'est.
Le réseau AMI regroupe toutes les associations qui le souhaitent, des Yvelines, qui aident les personnes exilées. Voilà, tout type d'association, quelle que soit leur fonction et le type d'aide qu'elles apportent.
Comment ça se passe quand des personnes étrangères, migrantes, sont recueillies dans l'hôtel Formule 1 d'Épône ? L'hôtel vous contacte pour vous prévenir ?
Rarement, c'est plutôt les autres familles qui nous les signalent ou qui leur donnent nos numéros de téléphone. Et voilà, on peut avoir des appels à toute heure du jour et de la nuit en disant « Bonjour, je suis arrivée aujourd'hui à l'hôtel, j'ai 4 enfants et j'ai rien à manger. » Et voilà, ça commence comme ça en général.
Vous les aidez de différentes manières. Donc on commence par finalement les aides de première nécessité, donc l'alimentaire et l'hygiène.
Exactement.
Donc comment vous faites ?
On a mis en place un kit d'arrivée, donc quand les familles arrivent, on essaye de savoir juste la structure de la famille, le nombre de personnes, leur âge, et on leur apporte en gros 2 gros sacs de courses avec l'alimentaire minimum, l'hygiène minimum, des serviettes de toilette, les produits de première nécessité, un cuiseur à riz parce qu'il n'y a pas de cuisine dans l'hôtel, et en été un ventilateur aussi. Et voilà, donc ça nous permet d'avoir un premier contact avec eux, leur apporter déjà de quoi se nourrir et se laver. Et ensuite, on passe à la suite, à leur situation administrative.
Et du coup, les denrées alimentaires, puis les différents matériels, vous les procurez grâce aux dons ?
Exactement, uniquement grâce aux dons.
Et vous arrivez à vous faire connaître de la population ?
C'est un peu long, on n'est pas encore très connu, on ne fait pas non plus beaucoup de publicité parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est très prise par notre aide à l'hôtel. La Biocoop nous aide beaucoup, on est aussi aidé par des amis, des voisins, des connaissances, les maîtresses des écoles nous connaissent maintenant, donc elles participent aussi elles-mêmes de manière individuelle. Voilà, des personnes autour qui nous aident.
Alors justement, la Biocoop du Mantois, donc qui a un magasin notamment à Épône, et qui a organisé une collecte biosolidaire au mois de juin, Racontez-nous en quoi ça consistait et en quoi ça vous a aidé.
Alors, cette collecte biosolidaire a eu deux effets très bénéfiques pour nous. C'est que d'abord, nous avons pu récolter plein de produits d'hygiène et alimentaire pour aider les familles. Mais aussi, et ça c'est unique d'après ce que je sais, c'est que la Biocoop nous reverse la marge qui aurait été faite sur les produits donnés par les clients. Donc on a aussi un don financier suite à cette collecte.
Donc là, on parle des dons au niveau alimentaire et d'hygiène. Et après, une fois que vous vous êtes occupé de ces personnes, déjà vous occupez de combien de personnes actuellement ?
Il y a une cinquantaine de familles à l'hôtel, donc ça fait à peu près 150 personnes.
D'accord. Et là, vous vous occupez donc de leur parcours, de voir un petit peu où ils en sont, donc comment ça se passe. En fait, vous faites le point avec ces personnes pour voir un petit peu quelles sont leurs difficultés.
Voilà, on essaye de comprendre pourquoi ils sont à l'hôtel, quelle est la raison du fait qu'ils n'ont pas de logement. Alors, ça peut être simplement parce qu'ils sont en demande d'asile ou autre chose. Mais voilà, on fait le point sur leur situation administrative, notamment, parce que notre but final, c'est pas uniquement de leur apporter à manger ad vitam aeternam, c'est même pas du tout. C'est de les sortir de l'hôtel, en fait, de les aider à sortir de là. Ça passe souvent le fait de revoir leur situation administrative, alors soit leur obtenir les papiers quand c'est possible, soit leur ouvrir des droits auxquels ils ont droit, mais ça n'a pas été fait encore, ou simplement trouver du travail pour des personnes qui ont déjà des papiers, mais qui n'ont pas encore eu le temps de s'insérer dans la société. Voilà.
Concernant le côté administratif, vous les aidez à la compréhension du fonctionnement administratif français, notamment ?
Oui, alors on les aide à la compréhension, mais nous-mêmes, parfois, on ne comprend pas bien. Donc, on les aide surtout à faire, mais on fait avec eux autant que possible. On est confronté aussi au fait que beaucoup de familles ne parlent pas le français ou ne le lisent pas ou ne l'écrivent pas. Donc, on doit vraiment tout faire avec eux. Et après, même quand ils sont francophones et qu'ils lisent ou écrivent le français, l'administration française est vraiment complexe, même pour nous. Hein. Parfois, on s'arrache les cheveux.
Et pour les personnes qui ne parlent pas français ou pas bien français, est-ce qu'à côté, elles peuvent apprendre la langue à travers des cours ?
Alors, c'est une des difficultés qu'on a, c'est de trouver des professeurs pour les adultes. On a une demande énorme à l'hôtel à ce sujet, mais on n'a pas encore pu mettre en place des cours faute de bénévoles pour cela. On a eu une fois une stagiaire en FLE, elle était en master de FLE. Elle est restée 2 mois et demi, ça a été merveilleux pour les familles, comme pour elle d'ailleurs. Elle a vécu une expérience extrêmement riche, mais bon, son stage a dû s'arrêter évidemment et on aimerait beaucoup, beaucoup recommencer.
Donc, FLE français langue étrangère, vous recherchez donc des personnes qui ont ce diplôme ?
Oui, mais en fait, peu importe le diplôme, même simplement des bénévoles qui seraient prêts à donner de leur temps pour apprendre avec de la bonne volonté, de la bienveillance et de la gentillesse, ça pourrait aussi déjà être très bien.
Bon alors justement, tant que nous y sommes, comment on vous contacte ?
Oui, alors on peut me contacter via le mail de l'association, unailleurspourtous@orange.fr. Et on serait ravis d'avoir des personnes qui se proposent pour cela.
Vous avez des locaux aussi dans le secteur ?
On n'a pas de locaux et l'hôtel n'a aucune salle à nous prêter pour quoi que ce soit. Il n'y a pas de place. En revanche, la Biocoop nous prête sa cuisine. Il suffit qu'on la réserve un petit peu à l'avance et donc les cours de français peuvent avoir lieu là-bas. C'est juste en face de l'hôtel, donc c'est extrêmement pratique.
Et du coup, un point sur votre équipe. Vous êtes combien à œuvrer au sein de l'association ?
Alors, on n'est pas nombreuses. Moi, je suis à plein temps. Après, il y a 2 autres personnes qui coordonnent avec moi les actions. Et ensuite, il y a plein de bénévoles qui sont chacun sur une tâche précise et... Voilà, donc on est 3 coordinatrices et une dizaine de bénévoles qui font des choses chacun très précises.
Donc du coup, quel est le rôle de chacun ?
Alors moi, je balaye un petit peu chaque sujet, puisque je suis à plein temps. Donc, et puis comme j'y vais tous les jours, plusieurs fois par jour, les familles me connaissent et je suis un petit peu en première ligne dès qu'il y a une demande ou un besoin. Ensuite, on a Sylvaine qui s'occupe beaucoup du potager solidaire, qui se fait aussi dans les jardins de la Biocoop, du magasin. Ça, c'est un moment très sympa pour les familles. Ça leur permet de gratouiller la terre, de faire pousser quelques fruits et légumes qu'ils aiment, de sortir et de récolter le fruit de leur labeur et d'avoir des moments aussi de convivialité ensemble. Et de rencontrer aussi d'autres personnes, parce que certains clients de la Biocoop participent à ces ateliers. Elsa, l'autre coordinatrice, s'occupe particulièrement de tout l'aspect scolarité, inscription à l'école, au collège. Voilà, c'est des choses qui parfois sont compliquées.
On va y revenir hein, sur la scolarité. D'abord, pour revenir sur l'accompagnement dans les différentes démarches, donc il y a les démarches administratives, évidemment, qui sont importantes. Il y a aussi des démarches médicales, économique, juridique.
Tout à fait.
Donc, détaillez-nous un petit peu de quoi s'agit-il, enfin, quels sont les obstacles rencontrés.
Alors, pour le médical, qui est une grosse partie de notre aide, il y a le suivi des bébés, des nourrissons, qui sont très nombreux à l'hôtel. On les accompagne à la PMI, on organise leur suivi, tout ce qui est vaccination, suivi du nourrisson, etc. On est en lien étroit avec la PMI d'Aubergenville à ce sujet. Ensuite, il y a toutes les maladies, les petits bobos du quotidien pour lesquels on est très en difficulté parce que en fait, on n'a pas de médecin qui accepte ces personnes, même si elles ont la ME ou la CMU. On n'arrive pas à trouver de médecin qui les accepte. Donc malheureusement, on est parfois obligé de les envoyer aux urgences pour une angine ou pour une bronchite et ça nous ennuie beaucoup. Parce qu'on aimerait les sensibiliser au fait que on va voir un médecin et on va pas à l'hôpital quand on est malade, mais la réalité nous oblige à faire comme ça. Ensuite, il y a le suivi des personnes qui ont des maladies chroniques graves. Là, voilà, il faut se battre aussi pour trouver des rendez-vous chez les spécialistes et on les accompagne autant que possible, surtout quand c'est dans des hôpitaux ou chez des médecins qui sont pas très facilement accessibles en transport en commun. Donc on a des bénévoles qui ne font que taxi et ils sont très très précieux.
Il y a aussi donc l'accompagnement économique donc pour la recherche de logement ou d'emploi.
Oui. Alors là, la recherche de logement et d'emploi évidemment est conditionnée par le fait d'avoir les papiers, donc ça concerne pas toutes les personnes qui sont logées à l'hôtel. Parfois, le premier problème est un problème de langue française. Donc là, on gère d'abord ça. On essaie de les envoyer vers des associations qui peuvent leur apprendre le français ou Pôle emploi qui parfois peut leur proposer des formations. Mais c'est pas évident et ça marche pas à tous les coups. Et ensuite, ça démarre souvent par l'intérim, en fait. Voilà. Ensuite, on est en contact avec la mission locale aussi pour les 16-25 ans. C'est un soutien précieux et quand ils ont moins de 25 ans c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet qu'ils aient une formation de qualité.
C'est plus facile pour cette tranche d'âge que pour les plus de 25 ans.
Oui, exactement, beaucoup plus facile.
Vous avez un bon taux de réussite entre guillemets, enfin, vous arrivez à insérer les personnes dans la vie professionnelle.
Tout à fait, parce que ce sont des personnes qui n'aspirent qu'à une chose, c'est être autonome. Ils n'ont pas de rêve d'avoir une vie, d'être riche, de partir aux Seychelles en vacances, d'avoir une maison incroyable. En fait, leur seul souhait, c'est de vivre dans un pays où on leur fiche la paix et pouvoir payer leur loyer, payer leur nourriture. Je pense qu'à terme, s'ils pouvaient se payer une fois des vacances dans l'année, ça serait vraiment le rêve le plus fou. Mais ils veulent juste gagner leur vie, même petitement en fait, mais être autonomes. Et donc ils acceptent un petit peu n'importe quel travail, tant que ça leur permet d'avoir un salaire à la fin du mois.
Et au niveau de l'accompagnement juridique, donc là on parle de quoi exactement ?
La plupart du temps, ce qui est accompagnement juridique, c'est pour les personnes qui sont en demande d'asile et qui ont été déboutées par l'OFPRA, c'est-à-dire que leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Ils ont droit à un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui est un tribunal. Donc là, ils doivent être accompagnés d'un avocat. Et donc maintenant, on a un bon réseau d'avocats qui acceptent l'aide juridictionnelle et qui sont talentueux et on les dirige vers eux et voilà, on assure le suivi et le lien entre l'avocat et ces demandeurs d'asile.
Alors on parle maintenant de la scolarité, même chose, comment vous les accompagnez, quelles sont les difficultés rencontrées ?
Alors pour la scolarité en maternelle et en primaire, c'est assez simple, la commune d'Épône est assez accueillante à ce sujet. Donc on n'a pas de difficulté, si ce n'est que parfois les enfants arrivent, je sais pas, en CM2 d'Afghanistan, ils ont jamais mis les pieds en Europe, encore moins en France, et ils ne connaissent pas un traître mot de notre langue. Donc c'est un petit peu difficile pour eux parfois. Mais pour tout ce qui est maternelle primaire, c'est bon. Ce qui est plus compliqué, c'est le collège. Parce qu'un collège peut refuser un élève parce qu'il n'y a pas assez de place ou voilà. Et du coup, ces pauvres petits sont obligés en sixième d'aller à Mantes ou au Mureau alors qu'ils habitent à Épône. Donc déjà, ils connaissent pas notre langue, ils connaissent pas notre pays et ils doivent se déplacer tout seuls en train pour aller un petit peu loin. Et puis voilà, des tests à passer au CIO, etc. Là, on est en plein dedans pour quatre élèves. Quatre enfants qui viennent d'arriver en France, une Ivoirienne et trois Afghans. Et donc, il faut qu'ils passent les tests et ensuite, on verra où ils seront affectés. Voilà.
Par ailleurs, donc on avait évoqué tout à l'heure les dons au niveau de l'alimentaire ou de l'hygiène. Ça peut concerner les vêtements ou les objets du quotidien ?
Oui, on a de grands besoins en vaisselle aussi, parce que c'est quelque chose qu'on met dans le kit d'arrivée. Ils n'ont pas non plus d'assiettes, de verres, de couverts, voilà. On a besoin de serviettes de toilette, on a besoin de poussettes, hein, beaucoup, de porte-bébé, de plein de choses en fait du quotidien dont les familles ont besoin pour vivre du matin au soir. Et les vêtements, alors oui, on en a besoin, mais on n'a aucune possibilité de stocker. Donc, on a vraiment besoin de vêtements de tel âge, de tel sexe, à tel moment. C'est des besoins très précis. Et puis surtout, on ne peut pas tout accepter parce que c'est un peu compliqué le don de vêtements. Certaines personnes ne se rendent pas compte qu'on veut quand même leur donner des vêtements en bon état, propres. Et on se retrouve parfois à faire des tris incroyables chez nous avec des montagnes de vêtements finalement à mettre à la poubelle. Donc, on essaye de guider un petit peu ces dons-là, parce que ça nous fait parfois perdre beaucoup de temps.
Alors, au début, vous avez évoqué le fait que vous n'aviez pas vraiment de place pour vous organiser. Vous cherchez un local ?
Oui, on aimerait beaucoup un local. On a depuis peu domicilié l'association à Épône, ce qui va peut-être nous permettre de faire une demande de salle auprès de la mairie, mais... Je suis pas très confiante parce que la mairie a une liste d'attente très longue de la part de plein d'associations pour avoir un local municipal. Je vais faire la demande, mais c'est vrai que si on avait un local, ça nous aiderait beaucoup pour plein de choses. Et aussi parce qu'on aimerait énormément reprendre les ateliers d'éveil pour les petits qu'on avait mis en place avant le Covid. Parce que les enfants qui ont moins de 3 ans, qui ne sont pas scolarisés, sont dans une situation sanitaire assez dramatique. Ils sont dans des chambres de 8 mètres carrés. C'est pas 8 mètres carrés où ils peuvent jouer, puisque dans les 8 mètres carrés, il y a un lit, un frigo, un lavabo, toutes les valises de toute la famille, une échelle pour monter sur le lit d'en haut, etc. Donc la place pour jouer est absolument minuscule. Ils n'ont pas de place pour avoir des jouets. Et ce sont des enfants qui passent leur vie devant la télé. Et on le sent parce qu'on a des enfants de 2 ans, 2 ans et demi qui vont rentrer à l'école en septembre. On leur donne 4 cubes et ils n'ont même pas idée de faire une tour avec. On leur donne un livre dans les mains et ils savent pas qu'il faut tourner les pages. Parce qu'on est aussi face à des différences culturelles en fait, de parents qui n'ont pas la même sensibilité que nous sur le fait d'éveiller leur enfant ou de le stimuler. Nous, on est beaucoup là-dedans en Europe. Mais parfois, ils viennent de cultures où les enfants se débrouille avec la famille, les voisins, s'auto-surveille, et ça peut être merveilleux, c'est extrêmement riche dans leur univers et dans leur configuration de maison et de village et de famille. Mais ici, c'est pas possible, en fait, dans cet hôtel. Et du coup, les enfants, on a beaucoup de difficultés avec de plus en plus d'enfants qui ont des troubles de la concentration, des troubles du développement et des troubles de l'attention.
Est-ce que vous organisez des sorties culturelles, sportives, de loisirs ?
Oui, oui, au maximum, parce que tous ces enfants, évidemment, ne peuvent pas partir en vacances, n'ont pas de possibilité de faire des sorties le mercredi ou le week-end. On est en lien avec des associations qui, voilà, on aide à financer une sortie, et puis comme ça, nos jeunes ou nos petits, tout dépend de la sortie. Par exemple, dimanche, 12 enfants vont aller au parc Astérix, grâce à une autre association du Mantois, donc on est très content pour eux. La ville aussi organise des centres aérés, des semaines de vacances pour les enfants. Donc on finance, alors c'est pas très cher, mais voilà, on les aide à partir en vacances au maximum. Voilà, on s'aide beaucoup des associations du coin parce que nous on n'a pas assez de bénévoles pour organiser ça. Donc on a tendance à plutôt mettre en lien avec d'autres associations ou à financer d'autres associations qui du coup les emmènent.
Donc ça c'est pour les sorties, et vous menez aussi des activités artistiques ou manuelles, c'est ça ?
Oui, alors toujours dans les locaux de la Biocop aussi, hein, qui est vraiment, heureusement qu'ils sont là. Une des bénévoles, Elsa, a organisé un atelier mosaïque certains mercredis avec une maîtresse de maternelle d'Épône aussi. Pour des enfants, on a fait un atelier théâtre et marionnettes pendant les vacances de Pâques avec une association des Yvelines qui est venue pendant la semaine. Et on pourrait tout à fait imaginer d'autres ateliers. En fait, nous, on est très ouverts. Si des personnes ont envie d'aider d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, un artiste qui aura envie de les initier à la peinture, au dessin, à la sculpture, on est très très ouvert à tout ce qui pourrait sortir les enfants de leur quotidien, les occuper sainement et à les ouvrir à d'autres choses. On peut éventuellement acheter un petit peu de matériel, on peut demander à la Biocop s'ils peuvent nous prêter leurs locaux, et c'est toujours des moments très très riches pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les personnes qui interviennent.
Pour maintenir la pérennité de votre action, évidemment, il faut compter sur des aides humaines, notamment. Vous aimeriez bien vous constituer une sorte de réseau pour solliciter toutes ces personnes en cas de besoin.
Tout à fait. Et plus on aurait de numéros de téléphone ou d'adresse mail de personnes qu'on pourrait solliciter en cas de besoin, alors ça pourrait être un besoin humain d'accompagnement, ou des besoins de matériel. Par exemple, en juin, on attendait 6 enfants, 6 bébés. Il y avait 6 mamans qui attendaient des bébés. On a toujours de gros besoins de porte-bébés, poussettes, vêtements, baignoires en plastique, des choses comme ça, qui sont en fait très... C'est normal, mais pour nous, en trouver 6 d'un coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, plus on aurait de personnes à solliciter, plus ça serait facile d'aider les familles. Mais aussi pouvoir solliciter des personnes sur des idées de sorties, d'activités, ça serait plus simple pour nous.
Et du coup, vous cherchez évidemment des bénévoles pour vous aider de temps en temps pour certaines actions.
Voilà, mais les personnes ne seraient pas obligées d'être bénévoles ou adhérentes à notre association. On prend aussi les personnes qui veulent simplement nous aider une fois ou nous apporter des denrées ou des couches pour les bébés ou de l'hygiène une fois, ou je sais pas, quelqu'un qui vide sa maison et qui aurait envie de nous proposer ce qu'il y a chez elle. Ça peut être une fois, en fait. Ça peut beaucoup nous aider. Quand on doit, quand une famille a enfin un logement et qu'on doit tout meubler de A à Z d'un coup d'un seul, ça peut être des aides énormes pour nous.
Merci à vous, Jeanne Alonprenner, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez l'écouter le samedi à 15h et le jeudi suivant à 19h30. Et vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle association. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.